tous, aujourd'hui c'est une matinale un peu spéciale, haute en couleurs, qui laisse place à la parole aux personnes de la communauté LGBTQIA+, et ses alliés. Cette matinale se fera tous les derniers lundis de chaque mois, elle sera présentée par moi-même, Léonie, et vous fera découvrir de nombreux invités très différents. Pour cette première matinale, j'ai la chance d'être accompagnée de Luna. Comment tu vas, Luna ?
Très bien, merci.
Merci de me faire l'honneur d'être la première invitée. Est-ce que tu as le trac ?
Non, ça va, pas trop. Merci de demander, je suis très contente d'être là.
T'as déjà parlé dans un micro ? Tu t'es déjà fait interviewer ?
Non, jamais.
Eh bien, je suis contente d'être la première. Du coup, on va commencer un petit peu en te présentant. Donc, qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors... Je m'appelle Luna Morgado, je suis étudiante en art, j'aspire à être artiste, je fais de la BD à la gouache, de la broderie, je suis un peu éparpillée, je fais plein de choses, voilà, je suis très curieuse.
Un petit couteau suisse. Qu'est-ce qui te rend fière dans la vie de tous les jours par rapport à toi-même ?
Je dirais mon parcours, je suis très contente de m'être... désinhibée et d'être moins honteuse qu'avant, plus sûre de moi, plus mieux dans mes bottes.
Plus libre, finalement.
Oui.
Du coup, professionnellement, tu veux faire de l'art.
Ouais.
Et tu fais de l'art engagé. Moi, je la connais sur les réseaux sociaux, peut-être pas, mais vous allez la connaître. Est-ce que tu as du mal à cause de ta sexualité, de comment tu t'exprimes, de tes messages engagés ? Est-ce que tu as du mal avec ça, genre toi-même et par rapport aux autres ?
Dans la sphère professionnelle ou dans la vie de tous les jours ?
Dans la sphère professionnelle et après dans la vie de tous les jours.
Dans la sphère professionnelle, bah en art, en vrai, on est tous un peu bizarres. Donc non, il n'y a pas trop de problème à ça. Et je pense même quand t'as des singularités et surtout la sexualité, ça passe vraiment outre, quoi. Enfin, c'est plutôt ta sensibilité qui va jouer que ta sexualité. Enfin, ça a vraiment pas d'importance. Après, ça peut en avoir sur ce que tu peux raconter et dont des témoignages du coup que tu peux apporter, de la visibilité que tu peux donner, quoi. Mais non, du coup, il y a pas de problème.
T'as jamais eu quelqu'un qui, je sais pas, adorait ton art et d'un seul coup a compris que tu étais une personne queer, oh my god, et qui t'a insulté ou quoi ? Genre, ça s'est toujours assez bien passé de ton côté ?
Oui, ça s'est toujours assez bien passé. Je suis assez bizarre, donc les gens sont prévenus, quoi, de base.
Pardon. Du coup, je t'ai parlé des personnes mal intentionnées qui viennent un peu te mettre le blues, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien et j'ai l'impression que aussi le côté artistique, dans les métiers artistiques, les personnes sont un peu bizarres comme tu dis, donc c'est moins compliqué, mais je pense que dans les travails un peu de cadre, patron et tout ça, ça peut être un peu plus compliqué, mais du coup tu as de la chance d'être venu dans l'art. Et mais si t'avais des personnes qui venaient te faire chier un peu, voilà, on va parler cru, comment tu répondrais à ces gens-là ? Genre là, si t'écoutes à la radio, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je pense que ça dépend du contexte. Je suis une personne, je sais pas comment on peut traduire, un peu sassy des fois.
Ou, je sais pas, un peu...
Provocatrice.
Ou,
j'aime bien faire chier la personne, voilà, lui montrer que j'en ai rien à faire. Après, oui, voilà, ça dépend du contexte. Par exemple, l'été, quand je travaille en restauration, je parle pas de ma sexualité ouvertement. Enfin, à part si je me sens très à l'aise avec une personne, je pense que c'est quelque chose de privé et je pense que j'ai pas mal peur de l'homophobie. Et voilà, je travaille avec des gens qui ont plus de 50 ans, donc en plus à la campagne, voilà.
C'est très social aussi, la manière de penser, j'ai l'impression. Genre, à Montpellier, en vrai, on est plutôt bien lotis.
Ouais.
Mais du coup, toi qui viens de la campagne, c'est plus compliqué.
Ouais, c'est vachement plus compliqué. Et en fait, les gens, ils connaissent pas de personnes LGBT dans leur entourage. Et donc, ils se raccrochent à des stéréotypes pas forcément, voilà, qui te mettent pas forcément en valeur. Et donc, ça peut désarçonner, quoi, et avoir des conversations très gênantes ou voilà. Moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation.
Ça me fait penser à un truc. C'était une personne de ma famille. Je vais pas citer les noms, évidemment. Je leur avais dit que moi, j'aimais bien les garçons, j'aimais bien les filles, j'aimais bien ce qu'il y avait entre. Il y avait pas de souci. Et on m'avait dit, si tu ramènes une fille, c'est d'accord. Mais elle est jolie, hein, je veux pas d'une camionneuse. Mais ça va pas la tête, genre.
J'ai vraiment la même chose avec ma mère. Une fois, je parlais d'une amie que j'aime beaucoup, J'étais à l'internat avec elle au lycée et du coup on traînait tout le temps ensemble et ma mère m'avait dit mais c'est pas plus une amie hein parce qu'elle avait peur du coup que je sois avec elle parce que elle est très masculine tout ça. Non maman voilà. Enfin, c'est nul quoi de s'arrêter à ça. Voilà.
Est-ce que t'as ce truc toi aussi? Enfin, moi ça me le faisait au tout début quand j'ai commencé à assumer ma sexualité, mais là ça me le fait plus trop. Dès que je disais que bah du coup j'aimais tout le monde, j'étais attirée par tout le monde, mais en mode dans un sens où j'ai pas de barrière. Si une personne me plaît, c'est pas parce que les garçons, filles, tout ce que tu veux, qu'elle va me plaire. Mais on était en mode ah oui, mais moi pas du tout. Hein. Mais on est juste amis. Bah oui.
Oui. Oui, la personne se sent tout de suite concernée comme si elle était irrésistible.
Déjà l'ego. Ouais. Calme-toi, s'il te plaît. T'as eu ces petits, t'as eu ce genre de.
Ouais, au collège surtout. Bon, les années collège. Hein, je pense que c'est sympathique pour personne avec la puberté tout ça, mais ouais. Quand tu découvres que t'es pas comme tout le monde au collège, je pense que c'est beaucoup plus difficile de traverser ces années-là et surtout de s'assumer. Moi, j'ai fait mon coming out quand j'avais. J'avais 14 ans, ce qui est assez tôt en vrai.
Ouais, c'est un troisième, je crois, ouais. Un truc comme ça.
Ouais, ouais, quatrième, troisième, je crois. Ouais. Collège, c'est particulier parce que tout de suite, les gens pensent... Enfin, en fait, tu deviens...
La cible.
Ouais, la cible, la bête de foire, quoi.
Ouais,
les gens viennent vers toi pour te poser des questions totalement inappropriées. T'es en train de manger ton petit couscous à la cantine et toi, quelqu'un que tu connais pas vient te dire « C'est vrai que t'es lesbienne ?» Laisse-moi respirer, s'il te plaît. Et aussi, dans les vestiaires, pareil, ça, je pense que c'est une expérience qui est assez commune dans la communauté LGBT où les moments intimes entre meufs, du coup, sont particuliers, surtout dans ces âges-là. Du coup, les gens ont des a priori et les meufs pensaient que j'allais les regarder quoi que ce soit. Moi, j'étais déjà assez mal dans mon corps pour oser regarder les autres. J'étais déjà très centrée sur moi-même. Alors, non.
Enfin, je veux pas dire que c'est des fous, mais enfin, réveillez-vous quoi. On n'a pas envie de tous vous sauter dessus, surtout si tu penses comme ça. Bref, pardon, c'était un petit message que j'avais envie de faire passer. En parlant de messages que tu veux faire passer, si tu avais un message à adresser à une personne qui se découvre dans la communauté LGBT, peu importe quelle lettre, on va dire, et qui doute, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, en tant que Luna adulte?
Ce que je pourrais dire à moi de mon moi quand j'étais ado, pré-ado, je pense que ça serait de pas avoir honte, ou du moins d'essayer de pas avoir honte, de s'entourer. Après c'est difficile de s'entourer des bonnes personnes quand t'as une famille qui te soutient pas forcément et que voilà t'as pas beaucoup d'amis etc. Mais que ça va se construire petit à petit et voilà de tenir.
Ça va aller.
Voilà, ça va aller.
Non, toi. Du coup, en parlant de famille, j'avais une question un peu en rapport avec ça. Dans les relations en général, donc amis-famille, sans parler de la dimension romantique, ça on y viendra un petit peu plus tard, t'as eu du mal en tant que jeune adolescente? Et c'est vers à peu près quel âge que tu as rencontré des gens avec qui tu te sentais comprise et enfin soutenue?
Ouais, dans ma famille, c'était un peu compliqué. C'était pas... En fait, moi, quand j'avais fait mon coming out, je m'attendais soit au pire du pire, c'est-à-dire que j'allais être jetée de chez moi et j'allais être SDF ou je sais pas trop, soit j'allais être complètement acceptée, qu'on allait me dire « il y a pas de problème, on t'aime comme tu es », enfin, peace and love, quoi. mais en fait, c'était un peu un entre-deux, ce qui est souvent la réalité. Ouais, enfin... Et donc, j'étais très déçue et en fait... Ma mère surtout a été dans le déni pendant plusieurs années et donc même après mon coming out, elle a voulu me parler de garçon, etc.
Pardon, j'en étais professionnelle mais c'est un peu rigolo.
Ouais, c'était en fait c'est compliqué déjà à ces âges-là quand tu fais ton coming out, ça veut dire déjà que c'est passé par l'acceptation entre toi et toi-même et donc tu as déjà réfléchi à beaucoup de questions et que, en fait, ça demande énormément de courage et d'assurance de dire ce qu'on est. Et même si c'est pas définitif, même si on doute ou quoi que ce soit, c'est ok. Enfin, la vie est pas binaire, quoi. Et,
bah non, justement.
et donc oui, ça a été un peu difficile, quoi. Et donc, quand je suis partie de chez mes parents...
T'avais quel âge à peu près quand t'es partie de chez tes parents?
J'avais 18 ans. Okay, 18 ans, 19 ans pour mes études sup. Ouais. Je voulais partir un peu le plus loin possible de chez mes parents. Donc, je suis partie dans le sud pour mes études. Et là, ça a été une vraie libération. C'était un peu dur au début parce que se reconstruire en dehors des schémas... un peu dysfonctionnel que tu peux avoir avec tes parents, c'est difficile d'apprendre à aimer, en fait, sainement, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, et de découvrir aussi des émotions, de les accepter, c'est un petit parcours, une étape de vie, quoi.
Est-ce que t'as une personne en particulier que t'as rencontrée quand t'es sortie de chez tes parents, quand t'as vécu un peu seule ton indépendance, qui t'a donné un peu espoir dans cette société de gens pas trop ouverts d'esprit, on va dire?
C'était pas forcément quand je suis partie de chez mes parents. Je pense que j'étais... déjà, j'étais à l'internat au lycée, donc j'avais une certaine distance déjà avec mes parents. Et à l'internat, en fait, j'avais pris l'initiative d'assumer absolument qui j'étais, et ça, c'était une vraie libération. Et je pense que la personne qui m'a inspirée, c'est moi-même.
Super beau. Et ben, j'adore cette première émission parce que j'adore les petits messages qu'elle fait passer. Tu me permets, on va arrêter de parler de famille et amis, et on va justement parler d'amour romantique, dans le sens romantique. Est-ce que c'est compliqué pour toi de l'assumer quand t'es avec quelqu'un dehors, ou c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu te sentirais bien?
J'ai rencontré ma première copine à la fin du lycée, qui était une relation assez longue. Je dois bien avouer que j'étais tellement amoureuse que je m'en foutais un peu du regard des autres, mais c'était plutôt elle qui, du coup, avait un peu du mal à tenir la main en public et tout, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que dans l'espace public, en étant déjà une femme, tu te sens pas forcément très libre.
Et, comme une proie.
Voilà. En fait, l'espace ne t'appartient pas, et donc quand t'es gay, je pense que la difficulté est encore encore plus au-dessus. Quand tu passes devant des groupes de mecs, tout de suite, t'as un peu une peur. Mais aujourd'hui, même si il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ok, là, il y a des personnes où je me sens pas safe si je passe devant et que je tiens la main à quelqu'un que j'aime. » Enfin, toujours cette petite voix, et je me dis « On s'en fout. Si la personne à côté de moi, elle est à l'aise aussi, en fait, on fait nos vies. » Voilà. Et souvent, ça se passe bien. Et on est à Montpellier aussi, même si bon, il peut y avoir des mauvaises expériences. Je trouve que c'est une ville aussi qui permet d'être assez libre sur ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Montpellier, c'est un peu une bonne ville pour ça, et on a une bonne communauté ici. Et c'est ça qui est cool, et que je pense aussi qu'en général, les gens, les personnes homophobes ou les personnes qui sont violentes par rapport à n'importe quel sujet, elles sont très violentes derrière un écran, mais dans la vie, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Mais elles vont juste mal te regarder, et au pire des cas, toi, t'as oublié son regard 5 minutes après, quoi. Donc, bon, c'est chiant, mais bon, tu te fais mal regarder parce que ton haut va pas avec ton bas, donc
ouais.
Voilà. J'ai une petite question aussi, parce que tu es artiste, du coup, tu fais de la BD, tu fais du dessin, et pour moi, tu ne fais pas que ça. Tu es artiste dans la vie de tous les jours, voilà, je t'ai sur les réseaux sociaux, pour moi, t'es une artiste complète. Et est-ce que tu as un livre, un film, une musique qui t'a énormément marqué, ou une personne qui t'a inspiré dans ta jeunesse ou maintenant?
Vaste question.
Oui, personne, hein, après.
Quand j'étais pré-ado, j'avais tellement peu de représentations autour de moi, en habitant à la campagne et en ayant une famille pas très ouverte sur le sujet. Donc je regardais tous les films possibles et inimaginables. Vraiment, je sais pas comment on peut dire, mais je mangeais tout, quoi. Et donc je pense que ce serait un film. Je pense que c'est La Belle Saison qui m'a beaucoup marquée. c'est un film avec Cécile de France. Okay. Et Izia, je sais plus son nom de famille, c'est la chanteuse. Le scénario déjà m'a beaucoup parlé parce que ça parle de la campagne, ça parle, c'est dans les années 70, deux femmes qui se rencontrent dans les années 70, une parisienne et une qui habite à la campagne. Très axé mouvement féministe des années 70, ça m'a beaucoup plu, ça m'a touchée.
Merci beaucoup Luna. Là, on va arriver à notre petite pause musicale que tu as choisie.
Je suis la sorcière, la transition impalpable, celle qu'on veut tuer, celle qu'on oublie sur la plage. Je suis le chaos, je suis femelle, je suis mâle. Je suis l'ombre, la lune, le soleil et les étoiles. Je suis l'amour délaissé, je suis ton cadavre. Je suis la méduse, je suis percée dans ton âme. Je suis le mouvement, je suis le vent qui t'enlace. Je suis humaine, mais toujours l'alien dans ton crâne. Voilà, c'est moi, Omou. Hey, 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 hey. L'alien, c'est moi, où que je passe, ça fait un. Sur ton pouls, je suis la révolte, toutes les poches qui portent un coup. Je suis la tornade, la tempête qui te secoue, le rêve inavoué qui te tient debout. Je suis la rage, la colère et la trop tout, le sexe dénudé au milieu des tabous. Je suis le dissident et je crie devant vous. Je suis humaine mais je suis la lune partout. C'est qu'il s'agit de moi, leur grand miroir qui reflète leur déni. Mépris grandi, jalouse nos vies jolies. Tout. L'alien, c'est moi, où que je passe, ça fait un. L'alien, c'est moi, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude des regards qu'on me donne. J'ai l'habitude d'être l'autre des hommes. L'alien, c'est moi, où que je passe, ça fait un.
J'espère que cette petite pause musicale vous aura plu. C'était donc le choix de Luna. Alors, je vais continuer mes questions et là, on va passer dans un sujet un petit peu plus sombre. J'espère que tu es prête. Accroche-toi bien. Est-ce que tu trouves que dans la communauté LGBT, queer, il peut y avoir de la toxicité entre nous ?
Oui, c'est certain. La communauté LGBT, elle n'est pas toute rose. Hein. Enfin, on est des êtres humains. Mmh. Et donc... Enfin, ça veut pas dire notre identité veut pas dire que on peut pas faire des choses, on peut pas faire du mal aux gens, on peut pas être maladroit, on peut pas agresser des gens. Enfin, on est des êtres humains quoi. Donc oui, il peut avoir de la toxicité et je pense aussi beaucoup d'hypocrisie, mm-hmm. Surtout dans les milieux qui se disent safe où il y a comme des fois dans comme beaucoup de milieux des systèmes où il y a une personne qui domine un peu tout et qui est problématique et qui call out des gens qui ont rien fait ou enfin ouais il peut avoir des magouilles
ça me fait rire aussi parce que j'ai écrit cette question parce que je venais de penser à un truc, c'est certains homosexuels garçons qui vont te toucher parce que t'es une fille et sous prétexte qu'ils sont gays ils ont le droit de te toucher. Et ça m'est arrivé tellement, ça m'arrive de moins en moins, donc je sais pas si c'est parce que je traîne dans des lieux beaucoup plus safe, mais j'ai remarqué ce vrai souci et ça m'a énervé. Je sais pas si tu relates avec ce que je dis, mais
oui ou même pas forcément des personnes gays mais juste des amis à toi qui sous prétexte que vous êtes amis vont se permettre d'être un peu trop proches ou enfin c'est gênant. Moi je traîne pas beaucoup avec des mecs cis Mes amis sont très queeros et féminins, donc voilà, et je l'ai choisi avec...
avec attention.
Avec attention.
Il y avait aussi un autre sujet, mais je voulais en parler aussi à l'antenne, donc j'en profite que je sois avec toi. C'est que j'ai remarqué, bon, on va dire que je suis une personne pansexuelle, slash bisexuelle, parce que pour moi, dans ma définition personnelle, c'est la même chose, ok. Mais je sais que c'est pas exactement la même chose, mais j'ai du mal à comprendre la différence, s'il vous plaît, aimez-moi. Bref, j'ai remarqué beaucoup de biphobie, on va dire, parce que vu que je sors aussi avec des hommes, c'est pas vrai que j'aime bien les femmes. Et genre, parfois, je vais sur les sites de rencontres et trucs comme ça, et on va me bloquer aux trucs comme ça parce que je ne suis pas que lesbienne. Et de là, mais les gars, vous voulez que je fasse comment pour rencontrer des femmes si je suis limitée encore dans mon limitage?
Ah oui, ouais, mais la biphobie est un vrai problème dans la communauté queer. Oui.
Il y avait une blague là pendant le juin, le mois de le Pride Month. c'était du coup les bisexuels, ils peuvent faire que jusqu'au 15 juin. C'était un peu drôle, mais bref. Mais du coup, ouais, je trouve que parfois. Tu dois remplir des quotas de queerness pour mieux être accepté. Et je suis là, bah non. Enfin, la team, on est tous ensemble.
Il y a aussi un peu le même délire entre lesbiennes où si t'as eu des expériences avec des hommes, t'es pas une vraie lesbienne. Une lesbienne dans le lab.
Bah oui,
et
bien
donc,
sûr.
Ta valeur est un peu moins. Enfin. Et en soufflant.
On sait bon. Que dans notre société, en fait, je sais pas, on a toujours été éduqués au couple hétéronormé. Donc. Une fille qui est lesbienne, elle va forcément... Enfin, pas forcément, mais dans ses premiers trucs, on lui a dit, tu dois aimer les garçons, elle va essayer avec un garçon, et là, elle va vraiment se rendre compte, ben non, je peux pas, quoi, je peux pas, je suis lesbienne, laissez-moi être lesbienne. Mais il y a tellement de gens comme ça, et ça me rend un peu folle, parce qu'on est censé se soutenir, et après, heureusement que c'est une minorité dans la minorité, on va dire, mais c'est un peu saoulant, donc je voulais aussi faire passer ce message, parce qu'on n'insulte pas que les hommes cis-hétéros, on insulte aussi dans notre communauté. Alors, la question suivante se colle bien au sujet. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais folle?
Oui. Bon, déjà, parce que, comme j'ai dit au début, je suis un petit peu bizarre. Je suis quelqu'un de très sensible. Quand je suis joyeuse, je suis très joyeuse. Quand je suis triste, je suis très triste. Je suis investie dans ce que je fais. Et je sais pas, les gens me trouvent divertissante parfois et parfois très bizarre. Donc on m'a déjà dit que j'étais folle, oui. Mais par rapport à ma sexualité, non. De toute façon, je traîne pas avec les gens qui me disent que je suis folle par rapport à ma sexualité. C'est pas des gens que je souhaiterais avoir dans mon...
Voilà. Ouais, je comprends. Est-ce que pour toi, la santé mentale, c'est un sujet qui serait plus important à aborder avec des personnes de la communauté queer ou c'est au même titre que des personnes qui ne sortent pas de la norme et qui n'ont pas forcément des discriminations que des personnes de la communauté queer vont vivre?
Alors, c'est un sujet important dans tous les cas. Mais dans la communauté queer, c'est très important parce que on est quand même sujet à un taux de suicide beaucoup plus élevé quand on est jeune. Enfin, en fait, on vit tellement de discriminations plus grandes que les personnes cis hétéros, que la santé mentale, en fait, c'est un sujet central dans notre communauté. Je pense qu'on a un parcours, on vit entre nous aussi parce qu'on a un parcours très similaire dans le sens où on a vécu les mêmes difficultés, le coming out, le rejet, même parfois des dépressions, des tentatives de suicide. C'est très important, oui.
Je viens de penser à ça là, à l'instant. Je sais que tu as fait un peu de drag. Est-ce que tu veux un peu en parler ou pas du tout? Et expliquer aussi ce que c'est le drag pour les personnes qui ne connaîtraient pas.
Je me sens pas trop légitime de dire que je fais du drag parce que c'est vraiment juste.
Du drag.
Je me maquille et je trouve ça cool de performer quelqu'un. D'insupportable de type un homme.
Et là, on va voir pour les hommes. C'est quoi cette émission?
Donc, le drag, je sais pas comment le définir, mais pour moi, ça serait performer en exubérance un genre. Même au-delà du genre, je pense que c'est. Tu peux être aussi une créature, tu peux être une drag. C'est en fait se maquiller, se mettre, se performer, en fait. Et... et se mettre en scène, et ça peut être sous plein de formes, ça peut être avec les habits, ça peut être avec des coupes de cheveux, du maquillage, ça peut être n'importe quoi.
Toi, c'est du drag king?
Oui, moi, j'aime bien le drag king. Je me verrais pas faire du drag queen, étant donné que je suis une femme cis. Je trouve ça beaucoup plus puissant et...
powerful.
Voilà. Oui, ça, le drag king en tant que meuf, je pense que ça peut donner beaucoup plus de pouvoir et ça a beaucoup de sens en fait. Rien que en disant que tu peux te déplacer dans l'espace comme un homme, rien que d'apprendre à conquérir en fait ton espace comme eux et dans la vie de tous les jours, ça peut m'aider parfois à me dire ok, bon Luna, là il faut être sûr de soi. Et donc, tu penses à ton drag king. Là, on est drag king. Drag king qui est entre toi. Là, on conquérit tout. On pose nos couilles, là.
c'est assez marrant parce que justement, quand il y a des hommes qui comprennent très bien ce qu'on dit et que quand on dit all men, tous les trucs comme ça, ils se sentent pas visés parce qu'ils ne font pas partie du problème. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas et qui vont rester figés sur ça en mode oui, vous voulez être misante, vous voulez nous enlever notre place dans l'espace public. Non, on veut vous faire rendre compte qu'on n'a pas eu la même éducation et que pour vous, être dehors et ne pas vous faire emmerder, c'est une normalité. Nous, c'est souvent des exceptions quand on ne se fait pas emmerder. Et ils n'arrivent pas à se dire qu'il y a cette différence dans l'éducation et que justement, c'est très important ce que tu dis. Pour avoir du courage dans un espace public, tu vas faire appel à ton drag king alors que dans une société un peu utopique, tu n'aurais même pas besoin de le faire. Ce serait juste normal de pouvoir avoir ta place comme il faut dans le bus pour pouvoir marcher sans que personne te relouque de haut en bas. Enfin bref, et bref, je voulais juste faire mon petit discours sur ça. Et voilà, j'espère que tu es d'accord avec moi, sinon...
Oui, je suis très d'accord avec ce que tu dis.
J'ai une autre petite question. Est-ce que tu connais des associations sur Montpellier ou autres à recommander pour les personnes queer ou pour la santé mentale ou pour l'art? Là, c'est un sujet assez très vaste, allez. Des comptes Insta, des comptes TikTok que t'aimerais bien recommander?
Je dois bien aimer que déjà sur les réseaux sociaux, j'essaye un peu de limiter au maximum mon addiction. Et donc, j'ai pas d'assaut à recommander, mais le militantisme sur les réseaux sociaux, il peut être très fort et peut beaucoup te soutenir et enfin être très utile, mais aussi être très anxiogène et te bouffer toute ton énergie. Et donc je pense pas que j'en aurais. Après je sais que j'ai pendant plusieurs années j'ai fait du collage. J'ai fait partie de collectifs de femmes en non-mixité choisie qui collaient des slogans dans la rue contre les féminicides. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidée. Et pour le coup, c'est pas une asso, mais c'est un collectif, voilà.
T'as le nom du collectif?
Moi, j'avais créé le collectif de Lons-le-Saunier, donc là où j'habitais avant. Ouais. Mais il y en a un à Montpellier, le CQFAD. Je sais pas s'ils sont très actifs encore aujourd'hui, suite à ce qui se passe dans le monde. Je pense que ça préoccupe beaucoup de gens, je pense qu'il y a moyen de faire partie de ça encore et de voilà.
Je prends note et ça vaut le coup d'aller y faire un tour, même s'ils sont plus trop actifs. On peut voir ce qu'ils ont fait, etc. Et je sais pas, du coup, comme on a parlé de drag tout à l'heure, je n'arrête pas de penser à Drag Race France. Est-ce que c'est une émission que tu regardes?
Oui, j'ai pas regardé la dernière saison, le All-Stars. j'attends que tout soit fini pour tout me mater d'un coup. Je suis quelqu'un de très addictif.
Je crois que ça a fini là, la saison All-Star, elle a fini.
Ok, hein. je vais faire ça de suite.
Je crois, mais j'ai vu la fin, donc oui, je sais que c'est fini.
Je vais mater ça. Et j'ai adoré la première saison, c'était incroyable.
Mais je sais pas comment t'as découvert ces genres d'émissions, mais moi du coup c'était avec RuPaul. Avec RuPaul, du coup c'est aux États-Unis normalement, si je me trompe pas.
Oui.
C'était la première fois que j'ai découvert, que j'ai découvert l'art du drag. Pour moi au début il y avait que des drag queens, donc on performe le genre féminin. Et après, j'en ai appris un peu plus. Et quand c'est arrivé en France, j'en ai encore appris un peu plus. J'ai découvert le drag king, drag queer, drag créature, etc. Et j'étais en mode, mais en fait, nous, on voit que des défilés, des lip-sync. Donc, des lip-sync, c'est des playbacks. Et en fait, quand tu les regardes, elles doivent faire leurs perruques, elles doivent faire leurs vêtements, elles doivent savoir chanter, être drôles. C'est un travail immense et je pense qu'il faudrait avoir plus d'émissions comme ça.
Oui.
Est-ce que tu connais d'autres émissions de podcast queer ou même féministes ou juste sympas à conseiller?
Moi, j'avais découvert l'univers du drag avec la série Pose, qui parle de voguing, qui est une danse du coup qui est née dans les années 60, il me semble, 60-70, aux États-Unis, dans les quartiers pauvres, et la communauté surtout noire, les personnes noires qui se faisaient jeter de chez eux, enfin jarter de chez eux parce qu'ils étaient gays ou autres, se retrouvaient en fait dans la rue et ils pouvaient être repêché par une house, donc des personnes comme lui ou elle, et faire des compétitions et donc gagner de l'argent avec ces compétitions de danse et de drag, en performant le genre, en faisant des défilés, en faisant du lip sync. Voilà, je trouve ça trop chouette et du coup j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert le drag et c'est trop chouette.
Ok, bah merci pour cette petite recommandation. Alors là, nous arrivons à la fin de l'interview, donc si tu as envie de partager tes réseaux sociaux ou pas, c'est comme tu veux, bah tu peux.
Oui, alors sur Instagram c'est Luna Morgado, donc L-O-U-N-A, et Morgado M-O-R-G-A-D-O. Et puis voilà.
Merci beaucoup pour ce petit moment. Et je vous remercie, chère auditrice, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez découvert une belle personnalité grâce à Luna. Et au mois prochain.
Bisous.